Madame, mademoiselle, monsieur, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. À l'entame de cette dernière émission de décembre 2009, nous nous permettons de revenir juste un instant sur l'ensemble de cette année qui se termine dans quelques jours. Une année fructueuse à plus d'un titre. Rappelez-vous la 13e réunion habituelle du Conseil Spirit International réalisée les 4 et 5 juin 2009 à Liège, immédiatement suivi par le séminaire de Ouigimont, promu et réalisé par le même Conseil Spirit International et de l'Union Spirit Belge les 6 et 7 juin 2009, lequel était organisé autour du thème central, les activités dans les centres spirit. Le congrès médecine et spiritualité les 24 et 25 octobre 2009 à Toulouse. Le séminaire sur la désobsession de Dénicé des 14 et 15 novembre dernier, sans oublier les diverses conférences réalisées avec la collaboration des centres Spirit Alain Kardec de Bruxelles, du groupe Spirit Alain Kardec de Luxembourg, le NICAFLA de Bruxelles avec de prestigieux conférenciers brésiliens. Bref, une année très chargée mais ô combien riche en événements fraternels. Pour tout cela, nous tenions à vous remercier, toutes et tous, car votre participation fut très nombreuse. C'est donc avec grand plaisir que nous donnons la parole à notre sœur Gisèle Évrard de la Fédération Spirit de la province de Liège, avec qui nous continuerons en cette fin d'année la lecture du livre de la Genèse. À toutes et à tous, nous vous souhaitons une très bonne écoute. C'est donc avec plaisir que nous cédons la parole à notre sœur Gisèle pour la suite du livre de la Genèse. Aujourd'hui, elle vous parlera de la suite du chapitre 7 traitant de l'esquisse géologique de la Terre, période secondaire, du point 28 au point 25.
La Genèse selon le spiritisme, suite du chapitre 7, esquisse géologique de la Terre. Période secondaire. Point 28. Avec la période de transition, disparaissent la végétation colossale et les animaux qui caractérisaient cette époque. Soit que les conditions atmosphériques ne fussent plus les mêmes, soit qu'une suite de cataclysmes ait anéanti tout ce qui avait vie sur la Terre. Il est probable que les deux causes ont contribué à ce changement, car, d'une part, l'étude des terrains qui marquent la fin de cette période atteste de grands bouleversements causés par les soulèvements et les éruptions qui ont déversé sur le sol de grandes quantités de lave. Et d'un autre côté, de notables changements se sont opérés dans les trois règnes. Point 29. La période secondaire est caractérisée, sous le rapport minéral, par des couches nombreuses et puissantes qui attestent une formation lente au sein des eaux et marquent différentes époques bien caractérisées. La végétation est moins rapide et moins colossale que dans la période précédente, sans doute par suite de la diminution de la chaleur et de l'humidité et des modifications survenues dans les éléments constitutifs de l'atmosphère. Aux plantes herbacées et pulpeuses se joignent celles à tiges ligneuses et les premiers arbres proprement dits. Point 30. Les animaux sont encore aquatiques ou tout au plus amphibies. La vie animale sur la terre sèche fait peu de progrès. Une prodigieuse quantité d'animaux à coquilles se développe au sein des mers par suite de la formation des matières calcaires. De nouveaux poissons, d'une organisation plus perfectionnée que dans la période précédente, prennent naissance. On voit apparaître les premiers cétacés. Les animaux les plus caractéristiques de cette époque sont les reptiles monstrueux, parmi lesquels on remarque l'ichthyosaure, espèce de poisson lézard qui atteignait jusqu'à 10 mètres de longueur et dont les mâchoires, prodigieusement allongées, étaient armées de 180 dents. Sa forme générale rappelle un peu celle du crocodile, mais sans cuirasse écailleuse. Ses yeux avaient le volume de la tête d'un homme. Il avait des nageoires comme la baleine et rejetait l'eau par des évents comme celle-ci. Le plésiosaure, autre reptile marin, aussi grand que l'ichthyosaure, dont le cou, excessivement long, se repliait comme celui du cygne et lui donnait l'apparence d'un énorme serpent attaché à un corps de tortue. Il avait la tête du lézard et les dents du crocodile. Sa peau devait être lisse comme celle du précédent, car on n'a trouvé aucune trace d'écaille ni de carapace. Remarque, le premier fossile de cet animal a été découvert en Angleterre en 1823. Depuis, on en a trouvé en France et en Allemagne. Fin de la remarque. Le téléosaure se rapproche davantage des crocodiles actuels qui paraissent en être les diminutifs. Comme ces derniers, il avait une cuirasse écailleuse et vivait à la fois dans l'eau et sur la terre. Sa taille était d'environ 10 mètres, dont 3 ou 4 pour la tête seule. Son énorme gueule avait 2 mètres d'ouverture. Le mégalosaure, grand lézard, sorte de crocodile de 14 à 15 mètres de longueur, essentiellement carnivore, se nourrissant de reptiles, de petits crocodiles et de tortues. Sa formidable mâchoire était armée de dents en forme de lame de serpent à double tranchant, recourbée en arrière, de telle sorte qu'une fois entrée dans la proie, il était impossible à celle-ci de se dégager. L'iguanodon, le plus grand des lézards qui ait paru sur la terre. Il avait de 20 à 25 mètres de la tête à l'extrémité de la queue. Son museau était surmonté d'une corne osseuse semblable à celle de l'iguane de nos jours, dont il ne paraît différer que par la taille, ce dernier ayant à peine un mètre de long. La forme des dents prouve qu'il était herbivore et celle des pieds que c'était un animal terrestre. Le ptérodactyle, animal bizarre de la grandeur d'un cygne, tenant à la fois du reptile par le corps, de l'oiseau par la tête et de la chauve-souris par la membrane charnue qui reliait ses doigts, d'une prodigieuse longueur et lui servait de parachute quand il se précipitait sur sa proie du haut d'un arbre ou d'un rocher. Il n'avait point de bec corné comme les oiseaux, mais les os des mâchoires aussi longs que la moitié du corps et garnis de dents, se terminaient en pointe comme un bec. Point 31. Pendant cette période, qui a dû être très longue, ainsi que l'attestent le nombre et la puissance des couches géologiques, la vie animale a pris un immense développement au sein des eaux, comme il en avait été de la végétation dans la période précédente. L'air, plus épuré et plus propre à la respiration, commence à permettre à quelques animaux de vivre sur la terre. La mer a été plusieurs fois déplacée, mais sans secousses violentes. Avec cette période, disparaissent à leur tour ces races de gigantesques animaux aquatiques, remplacées plus tard par des espèces analogues de formes moins disproportionnées et de taille plus petite. Point 32. L'orgueil a fait dire à l'homme que tous les animaux étaient créés à son intention et pour ses besoins. Mais quel est le nombre de ceux qui lui servent directement, qu'il a pu assujettir comparé au nombre incalculable de ceux avec lesquels il n'a jamais eu et n'aura jamais aucun rapport? Comment soutenir une pareille thèse en présence de ces innombrables espèces qui seules ont peuplé la Terre des milliers de siècles avant qu'il y vint lui-même et qui ont disparu? Peut-on dire qu'elles ont été créées à son profit? Cependant, ces espèces avaient toutes leurs raisons d'être, leur utilité. Dieu n'a pu les créer par un caprice de sa volonté et pour se donner le plaisir de les anéantir. Car tous avaient la vie, des instincts, le sentiment de la douleur et du bien-être. Dans quel but l'a-t-il fait? Ce but doit être souverainement sage, quoique nous ne le comprenions pas encore. Peut-être un jour sera-t-il donné à l'homme de le connaître pour confondre son orgueil. Mais en attendant, combien les idées grandissent en présence de ces horizons nouveaux dans lesquels il lui est permis maintenant de plonger les regards, devant le spectacle imposant de cette création, si majestueuse dans sa lenteur, si admirable dans sa prévoyance, si ponctuelle, si précise et si invariable dans ses résultats. Période tertiaire, point 33. Avec la période tertiaire commence, pour la Terre, un nouvel ordre de choses. L'état de sa surface change complètement d'aspect. Les conditions de vitalité sont profondément modifiées et se rapprochent de l'état actuel. Les premiers temps de cette période sont signalés par un arrêt de la production végétale et animale. Tout porte les traces d'une destruction à peu près générale des êtres vivants. Et alors apparaissent successivement de nouvelles espèces dont l'organisation, plus parfaites est adaptée à la nature du milieu où elles sont appelées à vivre. Point 34. Pendant les périodes précédentes, la croûte solide du globe, en raison de son peu d'épaisseur, présentait, comme il a été dit, une assez faible résistance à l'action du feu intérieur. Cette enveloppe, facilement déchirée, permettait aux matières en fusion de s'épancher librement à la surface du sol. Il n'en fut plus de même quand elle eut acquis une certaine épaisseur. Les matières embrasées, comprimées de toutes parts, comme l'eau en ébullition dans un vase clos, finirent par une sorte d'explosion. La masse granitique, violemment brisée sur une multitude de points, fut sillonnée de crevasses, comme un vase fêlé. Sur le parcours de ces crevasses, la croûte solide, soulevée et redressée, forma les pics, les chaînes de montagnes et leurs ramifications. Certaines parties de l'enveloppe, non déchirées, furent simplement exhaussées, tandis que, sur d'autres points, il se produisit des affaissements et des excavations. La surface du sol devint alors très inégale. Les eaux qui, jusqu'à ce moment, le couvraient d'une manière à peu près uniforme sur la plus grande partie de son étendue, furent refoulées dans les parties les plus basses, laissant à sec de vastes continents ou des sommets de montagnes isolés qui formèrent des îles. Tel est le grand phénomène qui s'est accompli dans la période tertiaire et qui a transformé l'aspect du globe. Il ne s'est produit ni instantanément, ni simultanément sur tous les points, mais successivement et à des époques plus ou moins éloignées. Point 35. Une des premières conséquences de ces soulèvements a été, comme on l'a dit, l'inclinaison des couches de sédiments primitivement horizontales et qui sont restées dans cette dernière position partout où le sol n'a pas été bouleversé. C'est donc sur les flancs et dans le voisinage des montagnes que ces inclinaisons sont le plus prononcées.
Poursuivons notre lecture du jour par le 7e chapitre de la Genèse, traitant de la suite de l'esquisse généalogique de la Terre, période tertiaire, des points 36 à 45.
La Genèse selon le spiritisme, suite du chapitre 7, esquisse géologique de la Terre, période tertiaire, point 36. Dans les contrées où les couches de sédiments ont conservé leur horizontalité, pour atteindre celle de première formation, il faut traverser toutes les autres, souvent jusqu'à une profondeur considérable au bout de laquelle on trouve inévitablement la roche granitique. Mais lorsque ces couches ont été soulevées en montagne, elles ont été portées au-dessus de leur niveau normal et parfois à une très grande hauteur, de telle sorte que, si l'on fait une tranchée verticale dans le flanc de la montagne, elles se montrent à jour dans toute leur épaisseur et superposées comme les assises d'un bâtiment. C'est ainsi qu'on trouve à de grandes élévations des bancs considérables de coquillages, primitivement formés au fond des mers. Il est parfaitement reconnu aujourd'hui qu'à aucune époque la mer n'a pu atteindre une telle hauteur, car toutes les eaux qui existent sur la terre ne suffiraient pas, lors même qu'il y en aurait 100 fois plus. Il faudrait donc supposer que la quantité d'eau a diminué, et alors on se demanderait ce qu'est devenue la portion disparue. Les soulèvements, qui sont aujourd'hui un fait incontestable, expliquent d'une manière aussi logique que rigoureuse les dépôts marins que l'on rencontre sur certaines montagnes. Remarque. On a trouvé des couches de calcaire coquillé sur les Andes de l'Amérique, à 5000 mètres au-dessus du niveau de l'océan. Fin de la remarque. Point 37. Dans les endroits où le soulèvement de la roche primitive a produit une déchirure complète du sol, soit par sa rapidité, soit par la forme, la hauteur et le volume de la masse soulevée, le granit s'est montré à nu comme une dent qui perce la gencive. Les couches qui le couvraient, soulevées, brisées, redressées, ont été mises à découvert. C'est ainsi que des terrains appartenant aux formations les plus anciennes et qui se trouvaient dans leur position primitive, à une grande profondeur, forment aujourd'hui le sol de certaines contrées. Point 38. la masse granitique disloquée par l'effet des soulèvements a laissé en quelques endroits des fissures par où s'échappe le feu intérieur et s'écoulent les matières en fusion. Ce sont les volcans. Les volcans sont comme les cheminées de cette immense fournaise, ou mieux encore, ce sont des soupapes de sûreté qui, en donnant une issue au trop-plein des matières ignées, préservent de commotions bien autrement terribles. D'où l'on peut dire que le nombre des volcans en activité est une cause de sécurité pour l'ensemble de la surface du sol. On peut se faire une idée de l'intensité de ce feu en songeant que des volcans s'ouvrent au sein même de la mer et que la masse d'eau qui les recouvre et y pénètre ne suffit pas pour les éteindre. Point 39. Les soulèvements opérés dans la masse solide ont nécessairement déplacé les eaux, qui ont été refoulées dans les parties creuses, devenues plus profondes par l'exhaussement des terrains émergés et par les affaissements. Mais ces mêmes bas-fonds, soulevés à leur tour, tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, ont chassé les eaux qui ont reflué ailleurs, et ainsi de suite, jusqu'à ce que celles-ci aient pu prendre une assiette plus stable. Les déplacements successifs de cette masse liquide ont forcément labouré et tourmenté la surface du sol. Les eaux, en s'écoulant, ont entraîné une partie des terrains de formation antérieure mise à découvert par les soulèvements, dénuder certaines montagnes qui en étaient recouvertes et mis au jour leur base granitique ou calcaire. De profondes vallées ont été creusées et d'autres comblées. Il y a donc des montagnes formées directement par l'action du feu central. Ce sont principalement les montagnes granitiques. D'autres sont dues à l'action des eaux, qui, en entraînant les terres mobiles et les matières solubles, ont creusé des vallées autour d'une base résistante, calcaire ou autre. Les matières entraînées par le courant des eaux ont formé les couches de la période tertiaire, qui se distinguent aisément des précédentes, moins par leur composition, qui est à peu près la même, que par leur disposition. Les couches des périodes primaires, de transition et secondaires, formées sur une surface peu accidentée, sont à peu près uniformes pour toute la Terre. Celles de la période tertiaire, au contraire, formées sur une base très inégale et par l'entraînement des eaux, ont un caractère plus local. Partout, en creusant une certaine profondeur, on trouve toutes les couches antérieures dans l'ordre de leur formation, tandis qu'on ne trouve pas partout le terrain tertiaire ni toutes les couches de celui-ci. Point 40. Pendant les bouleversements du sol qui ont eu lieu au début de cette période, on conçoit que la vie organique ait dû subir un temps d'arrêt, ce que l'on reconnaît à l'inspection des terrains privés de fossiles. Mais, dès que vint un état plus calme, les végétaux et les animaux reparurent. Les conditions de vitalité étant changées, l'atmosphère plus épurée, on vit se former de nouvelles espèces d'une organisation plus parfaite. Les plantes, sous le rapport de leur structure, diffèrent peu de celles de nos jours. Point 41. Durant les deux périodes précédentes, les terrains non couverts par les eaux offraient peu d'étendue, et encore étaient-ils marécageux et fréquemment submergés. C'est pourquoi il n'y avait que des animaux aquatiques ou amphibies. La période tertiaire qui a vu se former de vastes continents est caractérisée par l'apparition des animaux terrestres.
Pour terminer sa lecture du jour, notre sœur Gisèle vous invite à suivre la fin du chapitre 7 traitant de l'esquisse géologique de la Terre, et plus particulièrement de la période diluvienne des points 46 à 49.
La Genèse selon le spiritisme, suite du chapitre 7, esquisse géologique de la Terre, période diluvienne, point 46. Ce fut donc là le véritable déluge universel. Les opinions sont partagées sur les causes qui ont pu le produire, mais, quelles qu'elles soient, le fait n'en existe pas moins. On suppose assez généralement qu'un changement brusque a eu lieu dans la position de l'axe et des pôles de la Terre. De là, une projection générale des eaux sur la surface. Si ce changement se fût opéré avec lenteur, les eaux se seraient déplacées graduellement, sans secousse, tandis que tout indique une commotion violente et subite. Dans l'ignorance où l'on est de la véritable cause, on ne peut émettre que des hypothèses. Le déplacement subit des eaux peut aussi avoir été occasionné par le soulèvement de certaines parties de la croûte solide et la formation de nouvelles montagnes au sein des mers, ainsi que cela a eu lieu au commencement de la période tertiaire. Mais outre que le cataclysme n'eût pas été général, cela n'expliquerait pas le changement subi de la température des pôles. Point 47. Dans la tourmente causée par le bouleversement des eaux, beaucoup d'animaux ont péri. D'autres, pour échapper à l'inondation, se sont retirés sur des hauteurs, dans des cavernes et crevasses, où ils ont péri en masse, soit par la faim, soit en s'entre-dévorant, soit peut-être aussi par l'irruption des eaux dans les lieux où ils s'étaient réfugiés et d'où ils n'avaient pu s'échapper. Ainsi s'explique la grande quantité d'ossements d'animaux divers, carnassiers et autres, que l'on trouve pêle-mêle dans certaines cavernes, appelées pour cette raison brèches ou cavernes osseuses. On les y trouve le plus souvent sous les stalagmites. Dans quelques-unes, les ossements sembleraient y avoir été entraînés par le courant des eaux. Remarque. On connaît un grand nombre de cavernes semblables, dont quelques-unes ont une étendue considérable. Il en existe au Mexique, qui ont plusieurs lieux. Celle d'Adelsberg, en Carniole, Autriche, n'a pas moins de 3 lieux. Une des plus remarquables est celle de Gehlenröf, dans le Württemberg. Il y en a plusieurs en France, en Angleterre, en Allemagne, en Sicile et autres contrées de l'Europe. Fin de la remarque. Période post-diluvienne ou actuelle, naissance de l'homme. Point 48. L'équilibre, une fois rétabli à la surface du globe, la vie animale et végétale a promptement repris son cours. Le sol, raffermi, avait pris une assiette plus stable. L'air, plus épuré, convenait à des organes plus délicats. Le soleil, qui brillait de tout son éclat à travers une atmosphère limpide, répandait avec la lumière une chaleur moins suffocante et plus vivifiante que celle de la fournaise intérieure. La terre se peuplait d'animaux moins farouches et plus sociables. Les végétaux, plus succulents, offraient une alimentation moins grossière. Tout enfin était préparé sur la terre pour le nouvel hôte qui devait l'habiter. C'est alors que parut l'homme, le dernier être de la création, celui dont l'intelligence devait désormais concourir au progrès général, tout en progressant lui-même. Point 49. L'homme n'existe-t-il réellement sur la terre que depuis la période diluvienne, ou bien a-t-il paru avant cette époque? Cette question est très controversée aujourd'hui, mais la solution, quelle qu'elle soit, ne changerait rien à l'ensemble des faits établis, et l'apparition de l'espèce humaine n'en serait pas moins de bien des milliers d'années antérieures à la date assignée par la Genèse biblique. Ce qui avait fait penser que l'apparition des hommes est postérieure au déluge, c'est qu'on n'avait trouvé aucune trace authentique de leur existence pendant la période antérieure. Les ossements découverts en divers lieux et qui ont fait croire à l'existence d'une prétendue race de géants antédiluviens ont été reconnus pour être des ossements d'éléphants. Ce qui n'est pas douteux, c'est que l'homme n'existait ni dans la période primaire, ni dans celle de transition, ni dans la période secondaire, non seulement parce qu'on n'en trouve aucune trace, mais parce que les conditions de vitalité n'existaient pas pour lui. S'il apparut dans la période tertiaire, ce ne peut être que vers la fin, et encore devait-il être peu multiplié. Du reste, la période diluvienne ayant été courte n'a pas apporté de notables changements dans les conditions atmosphériques. Les animaux et les végétaux étaient aussi les mêmes avant qu'après. Il n'est donc pas impossible que l'apparition de l'homme ait précédé ce grand cataclysme. La présence du singe à cette époque est aujourd'hui constatée, et de récentes découvertes paraissent confirmer celle de l'homme. Quoi qu'il en soit, que l'homme ait paru ou non avant le grand déluge universel, il est certain que son rôle humanitaire n'a réellement commencé à se dessiner que dans la période post-diluvienne. On peut donc la considérer comme caractérisée par sa présence. Chapitre 8. Les théories de la Terre. Théorie de la projection. Point E. De toutes les théories touchant l'origine de la Terre, celle qui a eu le plus de crédit en ces derniers temps est celle de Buffon, soit à cause de la position de son auteur dans le monde savant, soit parce qu'on n'en savait pas davantage à cette époque. En voyant toutes les planètes se mouvoir dans la même direction, d'Occident en Orient, et dans le même plan, parcourant des orbites dont l'inclinaison n'excède pas 7,5 degrés, Buffon conclut de cette uniformité qu'elles avaient dû être mises en mouvement par la même cause. Selon lui, le Soleil était une masse incandescente en fusion. Il supposa qu'une comète l'ayant heurtée obliquement, en rasant sa surface, en avait détaché une portion qui, projetée dans l'espace par la violence du choc, s'est divisée en plusieurs fragments. Ces fragments ont formé les planètes qui ont continué à se mouvoir circulairement par la combinaison de la force centripète et de la force centrifuge dans le sens imprimé par la direction du choc primitif, c'est-à-dire dans le plan de l'écliptique. Les planètes seraient ainsi des parties de la substance incandescente du Soleil et, par conséquent, auraient été incandescentes elles-mêmes à leur origine. Elles ont mis à se refroidir et à se consolider un temps proportionné à leur volume et, quand la température l'a permis, la vie a pris naissance à leur surface. Par suite de l'abaissement graduel de la chaleur centrale, la Terre arriverait, dans un temps donné, à un état complet de refroidissement. La masse liquide serait entièrement congelée et l'air, de plus en plus condensé, finirait par disparaître. L'abaissement de la température, rendant la vie impossible, amènerait la diminution, puis la disparition de tous les êtres organisés. Le refroidissement, qui a commencé par les pôles, gagnerait successivement toutes les contrées jusqu'à l'équateur. Tel est, selon Buffon, l'état actuel de la Lune qui, plus petite que la Terre, serait aujourd'hui un monde éteint, d'où la vie est désormais exclue. Le Soleil lui-même aurait un jour le même sort. Suivant son calcul, la Terre aurait mis 74 000 ans environ pour arriver à sa température actuelle, et dans 93 000 ans, elle verrait la fin de l'existence de la nature organisée. Point 2. La théorie de Buffon, contredite par les nouvelles découvertes de la science, est aujourd'hui à peu près complètement abandonnée par les motifs suivants. Premièrement, longtemps, on a cru que les comètes étaient des corps solides dont la rencontre avec une planète pouvait amener la destruction de celle-ci. Dans cette hypothèse, la supposition de Buffon n'avait rien d'improbable, mais on sait maintenant qu'elles sont formées d'une matière gazeuse condensée, assez raréfié cependant pour qu'on puisse apercevoir des étoiles de moyenne grandeur à travers leur noyau. Dans cet état, offrant moins de résistance que le Soleil, un choc violent capable de projeter au loin une portion de sa masse est une chose impossible. Deuxièmement, la nature incandescente du Soleil est également une hypothèse que rien, jusqu'à présent, ne vient confirmer et que semble au contraire démentir les observations. Bien qu'on ne soit pas encore complètement fixé sur sa nature, la puissance des moyens d'observation dont on dispose aujourd'hui a permis de le mieux étudier. Il est maintenant généralement admis par la science que le Soleil est un globe composé de matière solide, entouré d'une atmosphère lumineuse ou photosphère qui n'est pas en contact avec sa surface.
L'année civile de l'ensemble de l'Occident est ponctuée de fêtes religieuses chrétiennes. Les plus importantes suivent les principaux événements de la vie du Christ. Aussi, que l'on soit à New York, à Paris ou à Bruxelles, le 25 décembre est un jour férié, celui des réunions familiales. Villes et villages rivalisent d'ingéniosité pour décorer leurs rues et garnir leurs sapins de la fête. Si pour beaucoup Noël n'est plus associée d'emblée à la naissance de Jésus, cette fête est entrée dans les mœurs occidentales, au point qu'un nombre croissant d'Européens, non chrétiens, en adoptent certaines coutumes, comme le repas convivial, les cadeaux, le sapin garni de boules. Noël est l'exemple même d'une fête sécularisée qui a gardé une empreinte chrétienne profonde à travers le resserrement des liens familiaux, l'échange de cadeaux qui manifeste l'affection que nous avons pour nos proches, le sentiment de joie partagé qui s'accompagne d'un sentiment de compassion envers ceux qui restent seuls ce jour-là. Mais que représente donc Noël pour les spirites? Cette question fut posée par un auditeur de Radio Kardec. Michel y répond avec plaisir.
Un auditeur nous pose cette question qui est d'actualité. Que représente Noël pour les spirites? Noël est une fête pour quelques religions, notamment catholiques, car c'est la naissance du Messie Jésus-Christ. C'est le départ de notre calendrier, annonçant ainsi une nouvelle ère. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui Noël est devenu prétexte à beaucoup de matérialité, et c'est devenu la fête des enfants avec l'occasion de vendre des jouets, des pâtisseries, de faire victuailles et autres excès. Mais n'est-ce pas là oublier les conditions volontaires de cette naissance? N'est-ce pas là oublier la raison de cette venue, portant dans son message toute l'universalité divine du « aimez-vous les uns les autres ». Noël, pour nous spirites, doit rester l'anniversaire de la deuxième révélation divine, après celle de Moïse. C'est l'occasion de remercier Dieu de nous avoir envoyé celui qui nous a promis ce royaume qui n'est pas de ce monde, où nous serons rétribués selon nos mérites. Celui qui s'est sacrifié pour nous montrer le chemin. Celui qui est revenu se communiquer il y a 150 ans pour nous compléter sa parole par l'esprit de vérité. Si nous avons bien compris ce qu'est la doctrine spirite, c'est alors l'occasion de se tourner vers nos frères, universellement, vers tous ceux qui souffrent en raison de leurs erreurs et de leurs réparations. C'est l'occasion de retrouver les valeurs fondamentales des lois divines, au-delà de notre matériel bien-être, de méditer de nouveau le sens des paroles de celui qui reste parmi nous, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Noël, pour nos spirites, est aussi l'occasion de nous comporter à son image, accomplissant ainsi sa volonté, car il reste l'exemple et le guide.
Période de fin d'année oblige, la seconde quinzaine de décembre est généralement synonyme de vacances d'hiver et de fermeture des centres spirites francophones. Radio Kardec ne peut échapper à cette tradition de Noël, repos bien mérité que nous mettrons à profit pour la rentrée. Exceptionnellement, pour des raisons techniques d'ailleurs, la rentrée de 2010 s'effectuera le 15 janvier. C'est pourquoi l'Union Spirit Belge vous communique la date de son traditionnel goûter de rentrée qui aura lieu le samedi 9 janvier. Des informations complémentaires seront à votre disposition sur le site de l'Union. Le centre philosophique Spirit Nos Solars de Bertry en province de Luxembourg, Belgique, vous prie d'ores et déjà de noter qu'ils organisent une conférence sur le thème « La médiumnité, un don naturel ». Celle-ci aura lieu le mardi 12 janvier 2010 à 19h. L'entrée sera gratuite. Pour renseignements et inscriptions, merci de bien vouloir prendre contact avec la responsable principale, Madame Marcia Alves, par téléphone en formant le 032 061 50 37 26 ou via GSM en formant le 032 047 69 13 966 ou mieux encore via courriel à l'adresse suivante marciario6 en un mot @yahoo.fr. Avis aux personnes et associations. Vous êtes responsable d'un groupe, d'une association ou simple particulier. Vous connaissez des personnes qui aimeraient en savoir plus sur la philosophie spirit. Vous avez un local, une pièce où vous pouvez nous en renseigner un. Si vous le souhaitez, nous pouvons venir faire une conférence de divulgation dans votre région afin de vous informer sur ce qu'est réellement la philosophie spirit et toutes les valeurs morales qu'elle renferme. Mieux encore, il n'y a pas de groupe spirit dans votre région. Vous avez envie d'en former un. Nous pouvons vous y aider en vous apportant un support didactique et humain pour la formation de celui-ci, même familial. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter par courrier ou courriel à l'adresse suivante, Union Spirit Belge 43 rue Maguin à 4000 Liège ou par courriel usb@spirit.be. Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Allan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser ces questions par email, de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio@spirit.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 00 32 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.